Écho d'économie.
Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce lundi à Paris, en France. Une trentaine d'entreprises françaises sont établies ici en RDC, vous le savez. Dans cette émission, nous parlerons de la balance commerciale entre ces deux États. Clôture de l'année fiscale 2023, demain, mardi 30 avril 2024. Toutes les catégories des contribuables gérées par la Direction générale des impôts sont concernées par cette échéance fiscale. Nous vous donnons des détails tout à l'heure. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi est arrivé dans la matinée de ce lundi à Paris. C'est pour une visite officielle de 2 jours en France. L'économie va occuper une place importante lors de cette visite. Un business forum RDC France est prévu ce mardi. Quelle est aujourd'hui la balance commerciale entre les deux pays? Cynthia Bachizina-Bizana revient sur les enjeux des relations franco-congolaises.
La RDC est le 107e partenaire commercial de la France selon les données du ministère français de l'économie. Les exportations de la France vers la RDC ont connu une hausse exponentielle de 48%, estimée à 220 millions d'euros. En revanche, les importations de la RDC vers la France ont régressé 61 millions d'euros contre 123 millions d'euros en 2021, constituant en majorité de produits issus du secteur minier. Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises françaises sont établies en RDC. Quelques-unes sont Orange, qui, selon la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, a dépassé le cap $1 milliard d'investissement dans le pays. Il y a le groupe Accor qui exploite 2 hôtels Pullman et projette l'ouverture prochaine de nouvelles implantations, notamment des hôtels Ibis à Goma et à Kinshasa, ainsi que 2 hôtels Novotels à Kolwezi et à Lubumbashi. Il faut compter aussi sur le groupe Castel qui détient les brasseries Bracongo et Brassimba. Perrinco exploite 11 champs en shore et offshore pour une production moyenne de 25 000 barils par jour. Et Total Energy présente dans la distribution pétrolière qui est le 2e réseau de stations-service en RDC et le groupe Vivendi avec Canal Plus et Canal Box. L'un des objectifs de cette visite officielle du président Félix Tshisekedi est de booster les investissements français en RDC au regard du potentiel d'affaires dont regorge le pays, surtout dans le secteur des mines, infrastructures et énergie.
Les dépôts des déclarations fiscales exercice 2024, revenus 2023 et le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP à charge de grandes et moyennes entreprises, les paiements de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères, de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge de sociétés minières, ainsi que la deuxième quotité de 40% de l'IBP à charge de petites entreprises et de l'impôt forfaitaire à charge de micro-entreprises interviennent ce mardi 30 avril 2024. Ce sont donc toutes les catégories des contribuables gérées par la DGI qui sont concernées par cette échéance fiscale du 30 avril 2024. Écoutez à ces sujets Jean Mouteba, chef de division communication et documentation au sein de la direction des études statistiques et communication de la DGI.
Les grandes entreprises et les moyennes entreprises, ces entreprises-là doivent payer à l'échéance du 30 avril 2024 les soldes de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge. Il y a les entreprises de petite taille qui sont constituées en micro-entreprises et en petites entreprises. Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs congolais. Ces contribuables-là doivent également s'acquitter de leurs obligations fiscales à l'échéance du 30 avril en payant pour les petites entreprises. Ces entreprises-là vont payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits. La dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises. Ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais. Cette catégorie-là payera un impôt annuel qu'on appelle l'impôt forfaitaire, qui est de l'ordre de 30 000 francs congolais. Mais en dehors de l'impôt sur le bénéfice et profit, qui concerne toutes les catégories de contribuables, il y a d'autres contribuables, qu'elles soient grandes ou moyennes, qui sont concernés par l'impôt mobilier. Ce sont des entreprises étrangères. Des entreprises étrangères qui, en plus de l'impôt sur le bénéfice et profit, selon leur catégorie, devront également payer l'impôt mobilier. Outre les entreprises étrangères, Il y a également des entreprises minières qui peuvent être grandes ou moyennes, qui devront aussi payer leur solde de l'impôt sur les bénéfices et profits. Mais en plus de ces soldes de l'impôt sur les bénéfices et profits, toutes ces entreprises minières qui ont eu à réaliser ce que nous appelons le profit excédentaire devront s'acquitter d'un impôt qu'on appelle l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Et donc, l'échéance du 30 avril concerne trois catégories d'impôts. Il y a l'impôt sur les bénéfices et profits qui concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur catégorisation. Et il y a l'impôt mobilier qui concerne les entreprises étrangères. Et il y a l'impôt spécial sur le profit excédentaire qui concerne les entreprises minières.
Notez que les formulaires des déclarations peuvent être obtenus en ligne ou auprès des structures gestionnaires des impôts et le paiement se fait auprès des banques commerciales ou autres institutions financières. Des preuves de paiement accompagnées des annexes, notamment les états financiers certifiés par les experts comptables relevant de l'ordre national des experts comptables, doivent être communiquées à la Direction générale des impôts. La DGI rappelle que toute absence de déclaration et des annexes telles que recommandées par la loi et tout défaut de paiement à l'échéance du 30 avril entraîneront des pénalités fiscales. Rendons-nous en Ituri, où les ressortissants de l'Ouganda et de la Tanzanie continuent à être soumis aux frais de visa par le service de migration dans tous les postes frontaliers de cette province. Ils dénoncent la léthargie du gouvernement congolais pour la levée de ses droits en violation de l'accord de libre-échange entre les pays de l'Afrique centrale qui devrait être réciproque. Ils accusent également la RDC qui a autorisé l'entrée gratuite des citoyens kényans d'appliquer la politique de deux poids, deux mesures. Isaac Rimoyope nous en dit plus.
Les ressortissants de l'Ouganda et de Tanzanie, composés essentiellement des chauffeurs de camions et des commerçants, entrent chaque jour aux différents postes frontaliers d'Aru et Mahagi et la Kistra à Kasenyi et Chomia. Selon eux, ils sont obligés de payer $50 de visa pour un mois, ce qui leur cause beaucoup de préjudices face aux multiples défis, notamment l'insécurité et la dégradation des routes en Ituri, qui les oblige chaque fois de prolonger leur séjour pendant 2 à 3 mois pour au minimum $150. Ils ajoutent que depuis 3 mois, ils attendent impatiemment la levée des paiements des visas à l'instar du Kenya sans succès. Ils accusent le gouvernement congolais d'appliquer la politique de deux poids, deux mesures. Selon certains officiels ougandais, toutes les démarches menées par leurs autorités auprès de leurs homologues de la RDC ne portent pas de fruits. Ils ajoutent que l'Ouganda menace même de suspendre la levée des frais des visas aux Congolais si cette situation persiste. Du côté des agents de services d'immigration en Ituri, ils disent attendre l'instruction de leur hiérarchie pour l'application de cette mesure de libre circulation des personnes et de leurs biens dans les États de l'Afrique centrale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Écho d'économie.
5 à 20%, c'est le taux de connaissance des gisements miniers en RDC, selon les experts. Cela est très faible au regard du potentiel du sous-sol congolais qui reste encore caché. Comment inverser la tendance? C'était l'un des points marquants de la conférence minière de la semaine française de Kinshasa qui s'est clôturée vendredi 26 avril dernier. Pour en parler, nous recevons Hervé Tevniaud, expert géologue au Bureau de recherche géologique et minière de la France. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Hervé Tevniaud, bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure, dans votre exposé, vous disiez qu'il se cache un potentiel insoupçonné qui reste à découvrir dans le sous-sol congolais.
Tout simplement parce que tout ce qui est exploité à l'heure actuelle est ce qui a été découvert depuis un siècle, sans qu'il y ait eu de grands programmes de recherche à l'échelle générale du pays qui permettraient de mettre en évidence des potentiels qui sont à l'heure actuelle cachés, puisque ce que l'on exploite, c'est ce qui était, je dirais, affleurant. Et donc visible, maintenant il faut aller rechercher ce qui est caché, plus ou moins grande profondeur. Ça peut être à 2 mètres comme à 200 mètres.
Et comment y arriver ?
Comment y arriver ? En envoyant des géologues avec leur marteau, leur boussole, en utilisant des techniques d'approche géophysique avec des avions qui ont des capteurs qui vont permettre de voir des signaux montrant ce qu'il peut y avoir en profondeur, en faisant des analyses chimiques dans les sédiments de ruisseaux qui vont montrer qu'en amont, il peut y avoir des substances distance avec une quantité potentiellement importante, et puis ensuite de faire de l'exploration avec des sondages, avec des tranchées, et avec des analyses qui permettront d'identifier un potentiel de manière plus précise.
Alors selon des études, hein, il n'y a que 2% du budget national qui est affecté, en tout cas qui sont affectés à cette recherche-là. Est-ce que vous pensez qu'avec ce peu de moyens, il est tout à fait possible d'arriver à tout ce que vous êtes en train d'énumérer ?
Tout à fait, c'est juste une question de temps. Il y a l'exemple de la France où il a fallu un siècle pour couvrir l'ensemble du territoire national dans la connaissance géologique. Donc c'est une mission de longue haleine qui sera pour les générations actuelles mais aussi pour les générations futures. Il faut en laisser aux jeunes de demain.
Ça, c'est un défi que vous, vous portez avec votre société ?
C'est un défi sur lequel la coopération française travaille main dans la main avec l'État congolais au travers du ministère des Mines et ses différentes directions et services pour aider à avancer ensemble sur une mission de base qui est la mission du ministère d'avoir cette connaissance qui va montrer les relations des roches entre elles, les potentielles substances présentes et pouvoir attirer des investisseurs miniers. C'est un travail qui est dans le rôle de chaque État pour qu'ensuite les compagnies minières puissent venir.
Vous pensez qu'il est encore possible de découvrir des mines de classe mondiale comme Kamoa-Kakula ?
Disons qu'il y a 10 ans, on ne connaissait pas. Donc on a découvert. Voilà. C'était un peu plus en profondeur et on a fait les bons sondages aux bons endroits par rapport aux bonnes observations à la surface en se disant, là, si on creuse à cet endroit-là, à telle profondeur, il y a des chances que. Et c'est un challenge, ben, quand il est réussi, ça fait Kamoa. Ouais.
Pourquoi, selon vous, les investisseurs ne viennent pas, malgré ce potentiel-là du sous-sol ?
Alors, il y a un certain nombre d'investisseurs, il y a une mauvaise vision de la RDC, mais bon, il y a eu des exposés hier où on expliquait qu'il y avait 40 taxes, il y a bon, tout un tas de choses comme ça, mais toutes ces choses-là s'arrangent, vont dans le bon sens et l'objectif, il est clairement que le pays puisse attirer les investisseurs. Donc tout va être fait, tout commence à être fait. On sent une vraie volonté à tous les niveaux de l'État et déclinée au travers des ministères et des directions des ministères pour que tout le monde travaille ensemble pour valoriser tout ça et attirer les investisseurs.
Vous insistez sur l'atout démographique du pays pour justement arriver à avoir des gisements qui soient mieux documentés ?
Ah ben, plus on a de forces vives et éduquées, formées et de qualité, plus rapidement et de manière très, très constructive, on arrivera à valoriser ce potentiel. Donc il y a une vraie richesse humaine qu'il faut aider au travers de l'éducation de petites, moyennes et grandes études. Puisqu'une mine, c'est pas uniquement un géologue, c'est pas uniquement un métallurgiste, ce sont aussi des juristes, ce sont aussi des chauffeurs, ce sont aussi des électriciens, des plombiers, enfin tous les métiers tournent autour. Et il faut qu'il y ait des formations à tous les niveaux requis pour que cela puisse fonctionner comme il faut et éviter de faire venir autant d'étrangers, des sociétés. Voilà. Il y a eu un exemple de STL qui disait « nous avons une personne non congolaise ». Sur plus de 300. Donc ça, c'est une vraie réussite. Je suis français, j'ai plaisir à venir ici, et si je peux venir juste pour faire une expertise, des validations comme ça se fait dans tous les pays, ça sera avec grand plaisir. L'objectif, il est d'aider nos amis congolais pour qu'ils atteignent le même niveau d'expertise que celui que l'on a, pour qu'ils gagnent en autonomie. Ça c'est vraiment c'est ce qu'on appelle une coopération.
Pour qu'il y ait un transfert de compétences.
Voilà.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
C'est par ici que prend fin Écho d'économie de ce soir. Mimi Kindou était à la prise de son, Alain Goy et Hervé Vauca à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.